Influenceur et espace public entre responsabilité et réconfort en temps de crise. Oh oui, et même après. Bonjour et bienvenue dans le podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. On ouvre aussi nos micros à des amis, des intervenants d'horizons différents et on essaye ensemble d'enrichir nos discussions et nos opinions. Le sujet du jour, les influenceurs et leurs super pouvoirs. Parce qu'un influenceur, ça n'est pas qu'un passeur de produits ou un testeux d'affaires avec un code promo et des rabais, parce que le Premier ministre du Québec a fait appel à eux il y a peu pour passer ses recommandations sanitaires en pleine crise de la Covid-19, les influenceurs, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ont définitivement un rôle à jouer dans l'espace public. Quel est donc leur pouvoir? Que peuvent-ils? Que doivent-ils? Que veulent-ils? Que devraient-ils faire? Mais aussi, comment peuvent-ils accompagner, rassurer, informer leur communauté? C'est ce dont je vais discuter aujourd'hui avec mon invité. Et pour parler de ces sujets avec moi, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Manon Lapierre de La Petite Bête. Bonjour Manon!
Bonjour Hélène!
Alors Manon, tu viens de passer le cap des 100 000 abonnés sur ta page Facebook, sur ta page YouTube, pardon. Je vais donc commencer par te dire bravo!
Merci! Et oui, c'est une drôle de période pour célébrer, mais après plus de 5 ans et plus de 450 vidéos, on le prend quand ça passe.
Ben oui, on prend les bonnes nouvelles en ce moment.
Oui, exactement.
Alors, dans la vie, tu cuisines presque comme tu respires et tout ce que tu fais, c'est bon, c'est beau, c'est inspirant et ça donne envie d'aller derrière les fourneaux. Je le sais parce que c'était bien mon cas quand je regarde tes vidéos. Alors, je voulais qu'on discute ensemble de ton rôle d'influenceur, mais aussi de ton rôle de créatrice de contenu, instigatrice de bouffe, qui nourrit les idées et les bedons avec un réconfort dont on a tous besoin. Mmh. Je commencerai par la première question. Un influenceur, Manon, c'est quoi? Chérie Bête et toi, vous êtes youtubeur à temps plein, c'est votre job, vous gagnez votre vie, vous payez votre hypothèque en faisant des vidéos sur YouTube. Exactement pour toi, un influenceur, c'est quoi?
Oh mon Dieu, ben tout d'abord, j'aime pas le nom, je déteste le titre qui a été donné at large à tous les gens de toutes catégories qui sont créateurs de contenu, que ce soit quelqu'un qui met des photos sur Instagram, à quelqu'un qui écrit des articles très profonds qui prennent un an à développer, et tout à coup, on s'est tous ramassés influenceurs. En plus, on peut pas s'auto-proclamer influenceur, je trouve que ça manque vraiment d'humilité. En fait, l'influence
attends,
est venue
rendu
avec...
rendu à 100 000 personnes qui te suivent sur YouTube, quand même. T'as de l'influence sur bien des gens et des foyers.
Oui, mais l'influence est venue avec l'effort et avec le travail et continue à venir avec l'effort et le travail qui est tout d'abord du développement de recettes, de la création vidéo, écrire des recettes, des articles, partager nos voyages, nos aventures. Puis oui, c'est certain qu'il y a une influence. On le voit parce que on reçoit des photos, à toutes les heures quasiment. J'ai une photo en ce moment de quelqu'un qui a fait mon pain ou qui est en train de partir un levain. J'ai trop de questions pour le temps que j'ai à y répondre. Donc, il y a vraiment un impact réel et quasi immédiat dans ce qu'on fait.
Ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu disais un petit peu, c'est premièrement, tu ne t'auto-proclames pas influenceur, mais il y a aussi cette idée de travail. Et c'est vrai que vous avez quand même... C'est pas du jour au lendemain qu'avec Lionel, vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui.
Non, pas du tout. Effectivement, on a commencé il y a plus de 5 ans. Et peu importe où est-ce qu'on est rendu, il y a vraiment beaucoup de travail dans le rôle d'influenceur tel qu'il est nommé aujourd'hui. Et le type de travail et la recherche derrière varient grandement d'un influenceur à l'autre. Et le message aussi, la qualité du message, il y a certains messages qu'on voit passer où on n'est pas d'accord. Moi, en tant que parent, il y a des trucs que je vois les influenceuses faire, qui sont plus jeunes, qui parlent de trucs qui... Tu te dis, quand ta fille est en train de grandir, tout ce qui est l'image au niveau du poids, l'image au niveau du physique, que des jeunes femmes font du Botox et qui s'en vendent sur Instagram parce qu'ils l'ont eu gratuitement, puis il faut qu'ils fassent la publicité ou je sais même pas comment appeler ça.
Ou qu'elles ont été payées pour le faire ou...
Ouais, tu sais, donc ça, c'est le côté, moi, qui me dérange un peu. Oui, il y a une influence, mais il y a une responsabilité qui vient avec cette influence-là. Mais quand t'es jeune, tu la vois pas, le côté responsabilité. Tu vois le côté populaire, tu vois le côté le fun. Puis là, c'est sûr qu'il y a de la réponse parce que les jeunes filles sont comme « Oh, wow, ça te fait mal. Oh, wow, c'est fou, pourquoi tu fais ça? » Puis ça crée quand même une vague.
Puis il y a une autre chose que tu me disais quand on avait fait une entrevue un petit peu plus tôt, toi et moi. Tu m'avais dit « Quand on est passé au statut plus professionnel, j'ai voulu en parler à ma communauté. » Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le dire, de le préciser? Qu'est-ce qui changeait dans ta façon dont tu allais créer le contenu qui faisait que tu voulais en parler?
Parce que je pense qu'on amène les gens dans notre cuisine, dans ce qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on fait. Les gens sont chez nous, sont carrément chez nous. Moi, j'ai pas une cuisine studio. Ils voient les enfants passer, ils voient Momo prendre une bouchée, Alizée passer en arrière, le chien qui saute sur le comptoir. C'est la vraie vie. Puis je trouvais que c'était important qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on était en train de vivre, parce que ça transforme quand même complètement l'expérience de dire on le fait comme hobby, puis tout à coup on le fait, non, c'est devenu notre métier, puis on le fait tout à la base pour la communauté, pour toutes les petites bêtes partout dans le monde qui nous écoutent. Fait qu'on voulait qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on était en train de vivre. Le deuxième objectif de ça, c'était aussi parce que comme on le fait professionnellement, faut qu'ils comprennent que faut faire de l'argent. Tout comme eux, tout comme n'importe qui. Donc, s'ils voyaient des placements de produits qu'on choisit de façon hyper stratégique, c'est sûr qu'on s'associe qu'à des marques ou à des trucs qu'on achèterait de toute façon pour notre propre famille, mais on voulait qu'ils comprennent que, ah ben oui, c'est normal qu'ils fassent ça. T'sais, il faut quand même qu'ils fassent de l'argent. C'est comme ça. Et les gens ont pas de compréhension que tu mets du contenu, tu mets du contenu, tu mets du contenu, mais... L'argent vient d'où?
Oui, il y a toute une stratégie derrière, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'approche que tu as en termes d'honnêteté. Et alors justement, ça m'amène à ma prochaine question, qui est un petit peu influenceur et politique, parce qu'on vient de voir influenceur et marque, mais cette fois-ci, influenceur et politique, parce que tu as été de ces youtubeuses qui ont répondu à l'appel de l'équipe Legault-Arruda, Premier ministre du Québec et le directeur de la Santé nationale, quand ils ont demandé aux personnalités publiques, des médias sociaux, les influenceurs, de les aider à passer le message et faire comprendre l'importance du confinement à leurs communautés respectives. Pourquoi, pour toi, c'était important de le faire?
Premièrement, j'ai trouvé ça absolument génial que le Premier ministre s'adresse aux influenceurs parce que ça démontre une compréhension et un... J'essaie de chercher le mot...
Au niveau, tu veux dire, du paysage?
Que c'est réel, que oui, du paysage et que l'influence est bel et bien réelle parce que les influenceurs ont vraiment mauvaise presse puis c'est choquant. T'sais, tu vois des articles passer puis tu te dis, voyons, pourquoi ils n'ont pas creusé un peu? Pourquoi ils ne sont pas allés parler à d'autres influenceurs? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas la qualité du message puis que c'est beau d'avoir une influence, mais que l'impact est là puis qu'il peut être super positif puis qu'on dirait des fois, il y a des gens plus vieux qui ne voient pas ça. Alors, quand le premier ministre, qui est d'une génération de jeunes boomers, je dirais, ou génération X comme nous, je sais même pas c'est quoi son âge, là, mais qui, moi je le sais, comprennent pas tous YouTube, comprennent pas tous Instagram, rient de ça, puis disent c'est tout acheté, puis tatata, ben ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je me suis dit, bon, enfin, voilà quelqu'un qui comprend la force de ce réseau-là, de ces communautés. Et si tu prends tous les influenceurs et toute notre communauté, ça, c'est fou. Mais oui, c'est sûr que c'est important. Le message a passé très rapidement. Moi, je me suis dit, il faut que je le dise parce que pour nous, on le considère important. On est en confinement quasi total depuis le départ, depuis le vendredi 13. Moi, j'ai fait une sortie, comme tu as dit, dans notre dernière entrevue au bureau de poste et c'est tout. Puis je portais un...
Oui.
Mais vraiment, on le prend au sérieux. Puis je me disais, c'est vrai qu'on... On dirait qu'au départ, les gens ne comprenaient pas nécessairement. Ils disaient « c'est pas grave, moi je suis jeune, ça ne me touche pas ». Donc, c'est important de passer ce message-là.
Est-ce que tu l'aurais fait quand bien même peut-être la situation t'aurait moins touché ou alarmé d'un point de vue personnel?
Oui, en autant que c'est une question qui est pas politique reliée à des votes, mais une question politique qui est reliée à une bonne cause. Là, on parle de la sécurité de la population, la santé, la sécurité de la population en général. Donc là, c'est une cause importante. Mais c'est sûr que si le premier ministre dit je demanderai aux influenceurs d'encourager les gens à voter pour moi, ben, donne-moi une bonne raison.
C'est ça, il y a de la politique et puis la santé nationale dans laquelle tu as fait la différence, tu as fait ton chemin. Puis, moi, je me posais la question, c'est vrai que dans La Petite Bête, la politique n'est pas présente et donc cette prise de position était plus effectivement une réponse exceptionnelle, peut-être à une situation exceptionnelle aussi. Au niveau de ta communauté, toi, ce que tu fais, c'est de la nourriture, c'est de la bouffe, c'est de la cuisine. Est-ce que tu penses que, du coup, c'était aussi relié de devoir inspirer de ce côté-là par rapport à ta communauté? Quel rôle tu te sens avoir en ce moment? Est-ce que tu as l'impression que ton influence, justement, est plus importante ces temps-ci?
C'est sûr que, oui, à la base, on est hyper chanceux parce que, sans vraiment le vouloir, on est pertinent dans ce qui se passe en ce moment. Tu sais, c'était pas stratégique, là, on s'entend, ça fait 5 ans qu'on crée du contenu. Et aussi, je voudrais dire que même quand il n'y a pas de questions politiques, même quand il n'y a pas de problème de société majeur, il y a une responsabilité au message. Puis, je veux dire, moi, c'est sûr que je fais attention de démontrer en cuisine, de tout utiliser. Ça a toujours été mon message. De savoir faire pousser soi-même, de savoir conserver comme nos grands-mères faisaient. Donc, tu sais, des bouillons de scrap, tu sais, tous les restants de légumes. Tu sais, ça fait longtemps, j'ai fait cette vidéo-là, ça doit faire 3 ans. Mais là, tout à coup, les gens qui, justement, doivent se débrouiller avec ce qu'il y a au garde-manger dans le fond du congélateur, dans le fond du frigidaire, on devient encore plus pertinent qu'on était. T'sais, parce que c'est ça, j'en ai plein de recettes comme ça. Comment faire un bouillon, comment faire du pain. La vidéo de pain a explosé. On parle de 20 à 25 000 vues par jour sur une vidéo qu'on a faite en 2016. Donc, il y a vraiment un intérêt, c'est une mode, mais c'est aussi un besoin parce que les gens ne trouvent plus de pain en épicerie. Là, le problème qui arrive, c'est que c'est tellement une mode qu'il n'y a plus de farine, qu'il n'y a plus de levure. Donc, du coup, les gens veulent faire leur levure. On appelle ça comment? On appelle ça un levain. Donc, j'ai sorti ma vidéo de levain, moi, il y a plusieurs années aussi. Et j'ai toute cette vague de gens partout en Europe, au Québec, qui se demandent comment partir un levain. Puis ça donne que moi, j'avais ma vidéo de pain. À la base, dès le départ, ce qui me démarquait des autres, c'est que je l'ai testé, le fameux pain cocotte, encore et encore et encore, pour avoir un processus qui se faisait et à la levure et au levain. Puis moi, je n'étais pas capable d'en trouver. J'ai vraiment testé. Donc, c'est peut-être une des raisons du succès de cette recette-là. Mais là, ce qui est magnifique, c'est que là, je reçois des photos de gens. Tu sais, j'ai un garçon de 14 ans d'Ardèche en France qui m'a envoyé une photo de son premier pain cocotte qu'il avait fait tout seul de ses propres mains. Mais j'en ai 10, 15 par jour des pains en ce moment que les gens ont fait.
Justement, tu vois, je me posais cette question parce que quand je regardais tes médias sociaux, les photos que tu partages sont largement les photos de pain. Et je m'étais posé cette question, est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin peut-être de retour à l'essentiel? Tu sais, ça me fait penser à la série un peu de Michael Pollan sur Netflix, Cooked, ouais. Où vraiment on revient à la base, à des aliments peut-être simples dont on sent avoir besoin. On n'est pas dans le fancy, on vient vraiment à la base, quoi.
Absolument. Je pense que moi, je trouve ça magnifique parce que je suis une apôtre du pain maison depuis plus de 10 ans. Et là, ce que je vois en ce moment, c'est ce retour au respect du pain qui est un aliment qui a nourri l'humanité depuis des millénaires. Et le pain a eu mauvaise presse pendant quand même une période où, on s'entend, là, c'était les fameux carbs étaient l'ennemi numéro un. Puis là, après ça, il y a eu la mode du pas de gluten. T'sais, à tous les jours, je reçois des photos, des questions de gens qui nous suivent qui disent « Je peux-tu faire la même recette avec une farine sans gluten? » Ben non, je ne sais pas comment dire ça, mais le gluten, c'est ça qui fait monter le pain. Mais toute cette mauvaise presse alentour du pain, moi, je me battais contre ça, tu comprends? Pendant toutes ces années-là, c'était comme je m'avançais tout seul dans le vent, puis je me disais, tu sais, un jour, tu sais, puis il y avait quelques petits maniaques qui faisaient leur pain, qui m'écrivaient, puis qui disaient, c'est génial, c'est comme ça que je t'ai trouvé sur YouTube. Mais là...
Mais là, tu as quand même rendu le pain quand même à un autre niveau, parce qu'on regarde tes photos, puis là, il y a du pain au chocolat, du pain pomme cheddar. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'encourageant, puis d'encourager aussi peut-être d'aller explorer, twister ce grand classique?
Ben oui, parce qu'évidemment, maintenant, quand tu vas à la boulangerie, tu sais, il y a de tout. Il y a des pains au fromage, il y a des pains aux noix, puis chacun a ses goûts. Puis on a aussi, dans les circonstances actuelles, on n'a pas tous les ingrédients. Mais honnêtement, moi, en ce moment, là, je rêve d'un jambon beurre. Tu sais, le bon vieux jambon beurre français. Ben là, si je fais ma baguette...
Le petit sandwich parisien traditionnel.
Puis évidemment, j'ai pas été capable de mettre la main sur du jambon. Oh, l'ironie! Donc, je peux faire mes baguettes, mais j'ai pas le jambon pour mettre dedans. Mais j'ai le beurre aussi. Il me reste un peu de beurre breton. Mais ça reste des aliments réconfortants. Puis le pain, ben oui, c'est abordable. Ça coûte rien à faire à la maison. Puis le fait... Moi, j'ai vraiment espoir que quand tout cela sera derrière nous, il y a beaucoup de ces gens-là qui vont continuer à faire leur pain parce qu'ils vont réaliser à quel point c'est facile. C'est pas compliqué, là. Je pense que même moi, jadis... C'était comme une espèce de rêve lointain. Je me rappelais ma mère et ma grand-mère qui faisaient du pain maison. J'avais un souvenir olfactif de rentrer dans la maison puis sentir le pain qui cuit. Il n'y a pas meilleure odeur dans une maison. Mais je me disais, voyons, c'est trop compliqué. J'ai pas le temps. Je travaille, j'ai une carrière, j'ai des enfants, nanana. Qui a le temps de pétrir de nos jours, blablabla. Quand j'ai commencé à tester, j'ai réalisé qu'en fait, c'est juste une question planification comme n'importe quelle recette. C'est pas plus compliqué, il y a pas de pétrissage dans mes recettes. Même les baguettes, c'était comme le next frontier, tu sais, la prochaine frontière. Ouais. Puis la première fois que je les ai faites, j'étais comme, c'est tout? C'est ça? Tu sais, je l'ai faite en vidéo avec un ami, Stéphane. La recette est sur YouTube déjà, c'est des baguettes comme à la boulangerie. Bon, c'est des baguettines parce que le four peut pas prendre des longues baguettes comme... Mais ça reste
c'est
que...
les petits détails techniques, mais le goût est le même.
Le goût est le même. Puis j'en revenais pas que c'était sorti de ma cuisine, de mon four de maison. Puis je pense que ça permet à les gens qui sont pas boulangers de réaliser que tout ça, c'est possible. Que c'est pas si pire, que c'est vraiment une satisfaction incroyable. À chaque pain que tu sors du four, la fierté ne meurt jamais.
Moi, je me suis un peu interrogée parce que, écoute, dans mon entourage, partout, je vois que ça bourgeonne, que les gens retournent dans les cuisines. Et je me suis posé cette question de, bon, ça doit être une mode passagère, ça va durer quelques jours. Et puis, j'ai l'impression que chacun part un peu en quête, à la fois d'un savoir oublié, d'un temps qui revient. Peut-être aussi un peu, chacun a sa petite Madeleine de Proust qui va aller chercher dans sa cuisine.
Oui, effectivement, je pense que ça, c'est à deux niveaux en ce moment, les cuisines. C'est que oui, on manque d'ingrédients, il y a des pénuries, on doit apprendre à faire des trucs soi-même et on peut pas aller au resto. Oui, on peut commander, mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens au chômage. On réalise aussi que économiquement, faut faire des choix. Mais il y a aussi le fait que la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine en général, c'est une méditation active. Tu sais, il y a des gourous qui nous montrent à méditer assis en indien pendant des heures, mais savez-vous quoi? Quand tu as les deux mains dans la pâte, c'est comme créer une toile. Tu peux pas penser à d'autres choses, t'es pas dans tes soucis, t'es en train de faire quelque chose, mais la beauté, c'est ce que t'es en train de créer, ça se partage, c'est délicieux, ça nourrit les gens dans ta maisonnée. Tu sais, c'est comme un genre de 360 parfait. Donc, c'est non seulement quelque chose de qui passe le temps, qui aide à gérer l'anxiété, mais en plus, ben, faut manger.
Puis c'est ça, tu sais, je me disais, on en parlait, là, c'est une situation où il y a quand même beaucoup de gens qui ont le temps de cuisiner, mais qui ont aussi le besoin de cuisiner parce qu'il n'y a plus les ingrédients qu'il faut, parce qu'ils ont été privés de salaire, fait que ça coupe aussi le budget des plateaux cuisinés, etc. Pour certains, ça peut être difficile de joindre les deux bouts. Puis est-ce que toi, dans le type de recette que tu vas présenter en ce moment, est-ce que tu te sens d'une certaine façon peut-être investi d'une mission, tu sais, de proposer des plats nourrissants, réconfortants, économiques, faciles à faire? Est-ce que, en ce sens, est-ce que l'actualité à toi, elle t'influence à ton tour?
Absolument. En fait, dès que la pandémie a été annoncée, et tu devrais le savoir, notre mois de mars était supposé être de la cuisine japonaise. On avait fait une épicerie de comme 200$ de produits japonais. On était prêts. Mes recettes étaient enlignées. C'était sur le thème du Japon, cuisine asiatique. Mais là, quand ça a commencé, il y a personne qui a l'opportunité de mettre la main sur certains de ces produits-là. C'était plus d'actualité du tout. Lorsqu'on a, on a vu les questions, c'est sûr que moi, je vois les questions rentrer. Fait que là, ce qu'on a commencé à faire, ben, c'est qu'on a sorti un pain sans levure. Le piadina, qui est un pain italien, je l'ai pas inventé, mais il y a plusieurs recettes de piadina. Il y en a qui ont de la levure chimique, etc. Nous, on l'a fait avec carrément pratiquement rien, de l'eau, de l'huile, du sel et de la farine. On a aussi des, on a sorti une recette de pain nan farci hier, comme, c'est comme des pizza pocket, mais encore là, un pain nan qui est pas à la levure commerciale, qui est au bicarbonate de soude et à la poudre à pâte, ce que les cousins appellent la levure chimique. Donc, c'est des ingrédients qu'on a plus la chance d'avoir. C'est sûr qu'à chaque recette qu'on fait, on se pose la question, qu'est-ce que les gens ont le plus de chance d'avoir à la maison, qui coûte pas une fortune, mais qui en même temps, ils ont le temps de faire, ça peut être un beau projet. Donc, on est dans cette balance-là. Est-ce qu'on part dans quelque chose de compliqué parce que ça prend du temps, mais c'est satisfaisant, ou on va dans quelque chose de très, très simple avec juste quelques ingrédients? Mais on voit, il y a une réponse. T'sais, hier, on a sorti notre vidéo à 10 heures du matin et j'avais déjà presque une dizaine de photos en me levant ce matin, de gens qui avaient fait les pains nan, les fameux pains nan au beurre à l'ail, puis farci au fromage, puis etc. Puis tu sais, c'était tout, waouh, c'est trop cool, merci, tu m'as aidé avec mon souper. Donc, puis encore là, ça, c'est une recette simple.
Est-ce que vous produisez plus de contenu en ce moment? Parce que votre activité, alors c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui vont avoir des sphères de spécialisation différentes. Toi, en l'occurrence, c'est la cuisine. Et justement, est-ce que vous sortez plus de contenu en ce moment? Est-ce que tu as l'impression que vous êtes plus plébiscité aussi pour le faire?
On sort plus de contenu parce qu'on sent que ça aide. T'sais, à chaque fois, je suis déchirée parce qu'on est hyper occupée, on a les enfants à la maison. On était déjà occupés avant d'avoir les enfants à la maison. Là, on est encore plus occupés parce que les communautés ont explosé sur notre YouTube et sur notre blog, lapetitebête.com. Et honnêtement, en même temps, on voit que la réponse est tellement positive, puis les gens adorent ça. Fait que là, on a fait un premier live sur YouTube samedi passé, le 28 mars. C'était sur le thème de mon anniversaire. Fait qu'on a fait mon gâteau favori, le Saint-Honoré, en direct. Puis écoute, avec minute d'humilité incluse, parce que c'est un peu notre marque de commerce. Depuis le départ, moi, ça me fatiguait de regarder des shows de cuisine quand j'étais plus jeune même, puis de me dire pourquoi tout est parfait tout le temps. C'est pas le même dans la vraie vie. Des fois, le gâteau monte pas. Des fois, le caramel craque pas, des fois. En tout cas, fait qu'on a fait un live.
Les imprévus.
Mais il était pas prévu, mais tu sais, c'était vraiment nous. Puis les gens ont vraiment adoré ça. Puis on s'est posé la question, est-ce qu'on en fait plus? Ben oui, dans cette période-ci, c'est comme un impératif en réponse à aider les gens qui sont pris chez eux, qui trouvent le temps long, qui sont en confinement. Ben si nous, notre rôle est éducatif en plus d'être du entertaining, tu sais, ça met un bon moral aux gens. Ben oui, on produit plus de contenu. J'essaie d'être plus aussi, j'en mets plus sur Instagram, mais j'ai de la misère honnêtement à tout gérer ça parce qu'en mettant plus de contenu, il y a plus de commentaires. Quand c'est des grandes compagnies comme Ricardo, il paye des gens, là, des gestionnaires de communauté qui répondent pour lui sur toutes ses plateformes, mais nous, là, c'est moi en fait. Lionel, lui, fait la partie technologique. Moi, je m'occupe de tous les messages, mais là, je peux plus. T'sais, il a fallu que je dise sur Instagram, je vous lis, mais je vous réponds pas nécessairement parce que je n'arrive pas, là, je peux plus, là, à un moment donné, il y a trop de messages.
Est-ce donc, que ça, c'est déchirant?
Oui, c'est déchirant parce que c'est... Mais en même temps, au moins, je les lis, donc c'est très égoïste. En lisant, moi, ça me nourrit, c'est vraiment... Ça nous fait réaliser à quel point qu'on a justement un impact. Les gens sont contents, ils nous envoient des gentils mots. La chose gentille, ça serait de répondre à tout le monde avec un petit mot personnalisé, mais à un moment donné, tu peux comme plus. Fait que oui, c'est déchirant, mais de payer quelqu'un d'autre pour le faire, ça serait aussi déchirant. Fait que je préfère dire aux gens la vérité. Je réponds quand je peux, mais en même temps, ça me prendrait une ligne 1-800 pour répondre à toutes les questions sur le levain. T'sais, on a sorti une vidéo pour répondre aux questions sur le levain, mais je reçois encore des questions à tous les jours. Mon levain, il bulle pas assez. Mon levain, il y a de l'eau. Mon levain, il a pas l'air en forme. Puis des photos de levain, mais tu sais, je suis comme un médecin du levain, là.
Puis tu reçois plein de minutes d'humilité. J'adore. Mais en même temps, c'est ça aussi, ta marque de commerce, je pense, c'est la spontanéité, l'honnêteté dans qui vous êtes comme famille. Puis ces minutes d'utilité, c'est ça aussi qui font que, bon, bah, c'est ça, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, dans une vraie cuisine, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais en même temps, c'est ça aussi qui je pense, rejoint les gens de se dire, bon, bah, c'est pas grave si c'est pas parfait, au moins si ça goûte bon, c'est déjà ça.
Ouais, effectivement. Puis essaye des nouveaux trucs.
Mais puis, t'as un message, je pense, qui est positif dans le sens où, tu sais, on parlait au début de ce podcast de l'image aussi et de la relation avec la nourriture qui n'est pas toujours saine ou facile pour tout le monde. Puis, je pense que justement, peut-être de dédramatiser aussi le processus, quelle que soit la situation, hein, que ce soit parce qu'on réagit mal nous-mêmes par rapport à la nourriture ou parce qu'on est dans une situation comme en ce moment qui peut être anxiogène et qui peut amener d'autres comportements alimentaires, sûrement aussi que d'avoir cette bonne humeur en cuisine, ça aide.
Oui, je pense que oui. Je pense on a toujours eu cette philosophie-là, tu sais, de l'espèce de cuisine instinctive, de se nourrir avec plaisir, de cuisiner avec plaisir. Quand les gens me demandent est-ce que j'ai les informations nutritionnelles sur mes recettes, je leur dis non, surtout pas. Tu sais, c'est pas le message que nous on veut propager. On veut justement que les gens apprennent à prendre plaisir, à se nourrir. Puis ma philosophie à moi, c'est que si tu le fais toi-même, ben déjà une partie de la bataille est gagnée parce que tu as le contrôle sur ce que tu mets dans tes propres recettes. Et puis tu vas probablement, je pense que les produits industrialisés de nos jours, industriels, en tout cas, il y a des chimistes qui sont payés très 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 cher pour s'assurer qu'il y a juste assez de sucre, puis juste assez de sel, puis juste assez de monoglutamate pour que ton cerveau il buzz quand tu manges ces produits-là. Puis c'est vrai que c'est bon, tu sais. Mais là, je pense que cette période-ci où les gens cuisinent nos recettes qui sont faites avec des ingrédients réels et vrais, ça va peut-être leur rappeler leur papille, puis le goût de cuisiner, puis leur rappeler leurs recettes que leur maman faisait, leur grand-maman faisait, de partager ça avec leurs enfants, puis de bâtir ces souvenirs-là qui vont être hyper précieux pour leurs enfants en grandissant, tu sais, de savoir cuisiner, puis de se retourner à des bases alimentaires.
Bah, puis ça me fait penser, tu me disais en entrevue dans la vidéo qu'on avait faite justement quand on était rentré du Japon que pour toi la cuisine c'était la plus belle forme d'amour et aussi une preuve de notre humanité. Moi j'avais trouvé ça très très beau. Est-ce que pour toi le genre de crise qu'on est en train de vivre en ce moment où parfois il y a des pénuries ou en tout cas des rayons vides, est-ce que par rapport à notre humanité ça te fait peur?
Ce qui me fait peur, c'est les gens qui stockent de façon insensée des ingrédients dont ils n'ont même pas besoin. Ils n'auront pas besoin pour des mois et des mois. C'est pas logique que la farine soit en telle pénurie, ni la levure, parce que, je veux dire, avec ce qu'il y a normalement sur les tablettes, on devrait être bon pour se débrouiller pour un certain temps. Puis les épiceries restent ouvertes. Fait que ça, je trouve ça un peu triste. Puis il y a des gens qui cuisinent à peine, qui continuent à commander au restaurant, mais meanwhile, ils ont rempli leur garage de farine puis de produits au cas où, là. Ça me dérange. Ce que j'espère aussi, c'est de voir des gens, bien, la période est parfaite, là, pour faire des petits semis, puis utiliser leur espace, que ce soit un balcon, un bout de terre où normalement ils mettaient des fleurs pour faire planter, pour faire pousser des trucs dans leur... en avant de leur maison ou au potager ou etc. Donc, tu sais, je pense que c'est une belle opportunité.
Du jardinage utile.
Oui, du jardinage utile. Moi, ça a toujours été ma philosophie. Là, à un moment donné, j'ai enlevé tous les bosquets qui étaient mignons, puis j'ai mis du kale à la place, tu sais, le chou kale, là. Mais écoute, j'ai jamais eu autant de kale, là. Tout l'été, c'était ridicule. J'en avais trop, tu sais. C'était comme une espèce de... Mais c'était beau aussi.
Un chapitre spécial sur la petite bête avec le kale.
C'est ça. En tout cas, je m'étends, mais oui, je pense que j'espère que... Avoir les mains à la terre, avoir les mains à la pâte, c'est ce que l'humain fait depuis toujours. Puis je pense que ça aussi, ça nous rapproche de notre humanité, tu sais, de se rappeler les bases de tout.
Écoute, Manon, le temps file, mais je te remercie vraiment beaucoup de cette discussion. Ça a été très enrichissant, puis très nourrissant, je dirais intellectuellement, en attendant de remplir nos bedons. Merci aussi à nos auditeurs d'être là, de nous appuyer par leur présence. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je viens d'une famille où l'art de la table est très important. Hein. Mes parents ont un immense jardin avec ma sœur, ils cuisinent beaucoup. Mon papa fait partie d'une confrérie qui s'appelle les Cousins de Bourgogne, dans laquelle on dit « bouteille sur table et cœur sur main, toujours gentilshommes sont cousins ». Et honnêtement, je suis très fière d'avoir reçu cette passion épicurienne, cette chaleur des plats qu'on partage. Je te rejoins beaucoup là-dessus, Manon. Ce sont des valeurs d'un temps qui sont passées ensemble, autour de la table. Et à ta façon, je trouve que tu incarnes cette bonté dans la bouchée, cette tâche noble de nourrir le corps et l'esprit. Chacune de tes recettes, Manon, sonne pour moi comme une déclaration. Et je suis vraiment contente de savoir que tu prépares un livre. Oui, j'en profite pour le dire, hein. Et puis évidemment, bien en attendant aussi de pouvoir sortir, les gens peuvent te retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, le blog, on va mettre tout ça en lien. Et puis pour nous retrouver nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le site de Le Bon Trait d'Union, tout est là. On est aussi sur Spotify, dans la section podcast du site. Bref, on vous met tous les liens. Vraiment, Manon, merci d'avoir été là. Merci tout le monde et puis surtout, bien prenez soin de vous.
Oh, kina, kina. あきれてる花を咲かせるずっと前に